le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, vous êtes peut-être en voiture, en train de cuisiner, ou tranquillement installé sur votre fauteuil. Vous êtes peut-être croyant, non-croyant, protestant, catholique, heureux ou malheureux. Mais ce matin, le Dieu de Jésus-Christ vous aime et vous accueille tel que vous êtes, sur le service protestant. Service protestant qui est une émission de la Fédération protestante de France, présentée par Benjamin Bories. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Corinne Biteau. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes prédicatrice de l'Église protestante unie de France. Prédicatrice, ça veut dire qu'il n'y a pas que les pasteurs qui s'occupent de prêcher ?
Non, effectivement, dans notre Église, le ministère de la parole peut être porté par des personnes qui ne sont pas pasteurs, qui ont un autre métier et qui sont au service de l'Église pour assurer des prédications au sein des cultes dans leur paroisse ou dans d'autres paroisses.
Et vous êtes également engagé dans un projet missionnaire à Créteil. Alors qu'est-ce que c'est qu'un projet missionnaire et qu'est-ce que c'est que ce projet à Créteil ?
Alors à Créteil, il n'y avait pas de paroisse protestante. C'était un lieu qui était desservi par une paroisse voisine. Et il y a 4 ans, une équipe de 6 personnes, accompagnée par 2 pasteurs, a décidé, avec le soutien des équipes régionales de l'Église, de créer une nouvelle paroisse de toutes pièces sur le site de Créteil. Donc il y a 4 ans, il y avait 6 personnes. Et dimanche dernier, nous étions 80.
Et donc l'enjeu, c'est aussi dans une église où vous essayez de rencontrer les personnes, de sortir un petit peu de l'église, d'aller à la rencontre et d'avoir justement cette approche missionnaire.
Voilà, c'est une paroisse missionnaire, c'est-à-dire c'est une paroisse qui garde vraiment une conscience très forte de l'importance de partager la parole avec les gens qui sont autour.
Et justement, c'est de la mission dont on va parler ce matin avec un passage de l'évangile de Matthieu où Jésus envoie ses disciples en mission. C'est au chapitre 10 des versets 16 à 26.
Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc rusés comme les serpents et candides comme les colombes. Prenez garde aux hommes. Ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez traduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Ils auront là un témoignage, eux et les païens. Lorsqu'ils vous livreront, ne vous inquiétez pas de savoir comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront condamner à mort. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous pourchassera dans telle ville, fuyez dans telle autre. En vérité, je vous le déclare, vous n'aurez pas achevé le tour des villes d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son seigneur. Au disciple, il suffit d'être comme son maître, et au serviteur, d'être comme son seigneur. Puisqu'ils ont traité de Belzéboul le maître de maison, à combien plus forte raison le diront-ils à ceux de sa maison ? Ne les craignez donc pas. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est secret qui ne sera connu.
Thank you.
Dans ce chapitre 10 de son évangile, Matthieu raconte que Jésus envoie ses disciples en mission en leur donnant cette seule indication sur le message qu'ils ont à partager, en chemin, proclamer que le règne des cieux s'est approché. Puis il les avertit de ce qui les attend, dans le passage que nous venons d'entendre. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que Jésus ne fait pas une publicité fantastique à son programme missionnaire. Vous serez détestés, pourchassés, arrêtés, jugés, flagellés. Vous serez trahis par vos proches, vous serez condamnés à mort. Et malheureusement, l'histoire a prouvé que cela peut être en effet le cas, depuis les persécutions des premiers siècles jusqu'aux victimes contemporaines. Jésus ne triche pas avec ses disciples, il leur tient un discours de vérité. Il les avertit que le suivre a un prix, parfois le prix le plus fort, le prix de la vie. La mission que Jésus confie à ses premiers disciples, et à leur suite à chacun de ceux qui se reconnaissent comme ses disciples, cette mission est donc une mission périlleuse. Celui que l'évangéliste Jean appelle le bon berger assume, d'une façon à première vue paradoxale, le fait d'envoyer ses brebis au milieu des loups. Dans notre pays et à notre époque, on n'est plus tellement pendu, brûlé, ni même envoyé aux galères pour sa foi. Et parler de Jésus n'est plus dangereux pour la vie des chrétiens. Il n'en reste pas moins que cela est pour beaucoup un exercice difficile. Ce texte de Matthieu dit qu'il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit simple, mais il dit aussi que c'est surmontable, ou en tout cas dépassable. Mais d'abord, pourquoi est-ce si difficile de parler de Jésus ? Il y a probablement diverses raisons à cela, différentes peut-être pour les uns et pour les autres. J'en retiendrai trois qui me semblent assez répandues. La première est que souvent, les chrétiens hésitent à parler de Jésus parce que les mots leur manquent. Ils hésitent, avec raison probablement, à utiliser les mots appris au catéchisme ou ceux de la Bible. Sont-ils audibles aujourd'hui ? Puis-je m'adresser à mes enfants, à mon voisin, à cette personne que je croise, en leur disant que le règne de Dieu s'est approché, comme Jésus le demande à ses disciples au début de ce chapitre de l'évangile de Matthieu ? Il faut bien reconnaître que cette expression n'est pas franchement limpide aujourd'hui. Il y a donc un effort de traduction qui est nécessaire. Mais cette traduction est un peu particulière, car le traducteur requis n'est pas un Google Translate comme un autre. Il s'agit en effet de dire ce que l'expression « le règne de Dieu s'est approché » signifie concrètement pour moi, et comment ou en quoi cette information, cette nouvelle, transforme ma propre vie. Lorsque j'ai reconnu et exprimé cela pour moi-même, je n'ai plus besoin de rechercher la juste formulation dogmatique. Je suis devenu le témoin, non pas de ce que l'on m'a enseigné, mais de ce que j'ai vécu, et je suis la mieux placée pour en parler, avec mes propres mots. Le traducteur dont j'ai besoin, c'est donc ma propre expérience de la foi. Il me semble qu'un deuxième obstacle fréquent lorsque les chrétiens voudraient parler de Jésus est la crainte d'être considérés comme des donneurs de leçons ou des professeurs de morale. Parce que c'est comme cela que le message chrétien est souvent perçu, probablement parce que c'est ce qu'il a été à certaines époques ou en certains lieux, quand brandir la bannière de l'Évangile était une manière de se donner un pouvoir pour dominer sur les hommes en leur disant ce qu'ils devaient faire ou ne pas faire, et surtout ce qu'ils devaient ne pas faire. Mais si je lâche prise sur l'idée que pour parler de Jésus il faudrait être exemplaire, il faudrait être parfait, la perspective de mon discours change fondamentalement. Si j'assume ma situation de pécheur justifié et non de juste, c'est-à-dire si je ne me place pas en surplomb comme un sachant du bien et du mal, mais en frère ou en sœur, qui cherche et avance avec mes frères et mes sœurs, et qui expérimente lui-même le difficile combat du bien et du mal, alors je peux soutenir, encourager, réconforter et libérer sans que mon discours ressemble à un cours de morale. Thank you. troisième difficulté, et non la moindre, est parfois la crainte d'être en butte à des sarcasmes, de se heurter à des incompréhensions quand on parle de Jésus. Les persécutions physiques existent certes encore dans le monde aujourd'hui, puisque l'on estime à 245 millions le nombre de chrétiens persécutés, et à plusieurs milliers celui de ceux qui sont assassinés chaque année à cause de leur foi. Mais en Europe, et notamment dans notre pays, c'est plus souvent à un mépris intellectuel que sont confrontés ceux qui parlent de leur foi. Ils sont souvent déconsidérés, voire tournés en ridicule, comme s'ils croyaient encore au Père Noël, ou comme si la foi était incompatible avec la raison. Dans d'autres occasions, c'est à la violence verbale que l'on peut être confronté, notamment de la part de ceux qui ont vécu douloureusement une expérience ratée de l'Église, voire une violence inacceptable de la part de certains de ses membres, et qui, assez logiquement, en déduisent que le message que l'Église est supposée porter est faussé. Ils envoient alors leurs blessures à la figure de ceux qui tentent de parler de leur foi, les laissant désemparés. Il est tout à fait clair que les disciples de Jésus n'échapperont pas aux sarcasmes ni aux reproches, quelle que soit leur sincérité, leur enthousiasme, leur compétence théologique ou leur qualité d'orateur. Et même s'ils arrivent à parler avec les mots de leur propre expérience, même en renonçant aux approches moralisantes ou surplombantes. C'est pourquoi ils doivent se souvenir que Jésus lui-même a été moqué, humilié, rabaissé, alors que pourtant il savait évidemment parler du règne de Dieu avec les meilleurs mots possibles. Il n'y a donc aucune illusion à se faire sur ce point, ça, c'est vraiment une épreuve inévitable. Jésus rappelle ainsi que le disciple n'est pas au-dessus de son maître, et que si lui-même a subi cela, ses disciples connaîtront certainement le même sort. Parler de Jésus, parler de sa foi, cela expose toujours, cela met toujours en danger, d'une manière ou d'une autre. Dans ce cas, pourquoi est-ce si nécessaire de témoigner? Là aussi, chacun peut ressentir les choses différemment. Mais je trouve dans ce passage du chapitre 10 de l'évangile de Matthieu, deux raisons majeures de témoigner de Jésus, malgré les difficultés que je viens d'évoquer. En premier lieu, si je mesure la joie que donne la foi, puis-je la garder pour moi? Si je mesure la paix que donne la foi, puis-je renoncer à la propager? Si je vis de l'espérance que donne la foi, puis-je hésiter à en rendre compte? N'y aurait-il pas comme une contradiction totale à vivre de l'amour de Dieu sans aimer à mon tour? Or, qui pourrait aimer quelqu'un et garder secrète vis-à-vis de cette personne une vérité aussi importante que celle-là? Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, criez-le sur les toits. Jésus me demande de ne pas garder cela pour moi. C'est la mission qu'il me confie, proclamer la venue de son règne, c'est-à-dire la victoire de l'amour sur la haine, la victoire de la vie sur la mort, la victoire du pardon sur l'erreur, sur la faute. Il me demande de le proclamer, même s'il sait que ce n'est pas si facile de dire cela à la face d'un monde marqué par une autre logique, une logique d'affrontement, de culpabilisation et de pouvoir de la peur. Il me le demande parce que lui a tout supporté pour me le faire savoir, pour m'en donner la preuve ultime, et qu'il me dit que le disciple doit être comme son maître. La seconde raison que me donne ce texte de ne pas me dérober à cette mission, c'est cette expression « ils auront là un témoignage » du verset 18. « Vous serez traduits devant les puissants, dit Jésus, mais vous serez un témoignage pour eux et pour les non-croyants si vous tenez bon. » Tenir bon malgré les colibés ou les injures? Tenir bon, dans tous les sens de ces mots, c'est-à-dire résister, mais surtout résister à la tentation de l'effet miroir de la violence. Rester bon quand l'agacement, l'énervement, le sentiment d'injustice ou la colère me montent au nez. Cela est véritablement une occasion de témoignage, comme Jésus le souligne. En effet, par une opération de renversement que l'on observe à diverses reprises dans les textes du Nouveau Testament, la persécution des croyants produit toujours au final le résultat inverse de ce qu'elle visait. Ainsi, on lit dans un autre livre de la Bible, les Actes des Apôtres, comment les persécutions, au lieu de les décourager, renforcèrent la foi des premiers chrétiens et leur engagement au service de l'annonce de l'Évangile. De même, lorsque je parle de ma foi malgré toutes les difficultés qui pourraient m'en décourager, je deviens la preuve vivante que la foi donne une force inhabituelle, qu'elle me change vraiment, que l'amour de Dieu me permet d'aimer mon prochain malgré son agressivité ou son mépris. Et cela, Jésus dit que c'est un témoignage que chacun peut porter avec l'aide de l'Esprit. Le verset 22, « Celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé », prend alors pour moi le sens suivant. C'est parce que je crois que le Christ est ressuscité que je suis libéré de la peur de la mort. Celle-ci n'est plus pour moi une fin, mais un passage, et je peux par conséquent tenir mon témoignage, c'est-à-dire le porter, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort s'il le fallait. Parler autour de soi de sa foi en Jésus le Christ est effectivement parfois périlleux, et en tout cas toujours difficile. Pourtant, il me faut bien être parmi ses témoins, parce qu'il me charge de partager avec les hommes de toutes les nations la bonne nouvelle qu'il a lui-même apportée, et parce que persévérer malgré les difficultés est le meilleur témoignage qui puisse être donné de la force que donne cette bonne nouvelle. Alors, comment et où trouver le moyen et la force d'affronter ces difficultés? Matthieu rapporte cette parole de Jésus. « Soyez avisés comme le serpent, candides comme la colombe. » Le serpent a un rôle trouble dans la Bible. Tentateur d'Ève, il est néanmoins décrit dès le livre de la Genèse comme la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que Dieu a faites. Sa prudence était bien connue des contemporains de Jésus, habitués aux animaux sauvages des campagnes. Par cette comparaison, Jésus encourage à ne pas se jeter, si j'ose dire, dans la gueule des loups. Certes, le danger est grand et inévitable, mais il ne faut pas se comporter pour autant comme une tête brûlée. Il faut être prudent et se préparer à faire face à ces dangers, et si possible, s'en préserver, bien entendu. Jésus précise, si vous êtes pourchassé dans une ville, fuyez dans une autre. C'est exactement ce qui est décrit dans les Actes des Apôtres. Lorsque les missionnaires Paul et Barnabas furent menacés de façon trop précise à Iconium, ils se réfugièrent dans d'autres villes, sans cesser pour autant, bien sûr, d'annoncer l'Évangile. À cette prudence du serpent, Jésus recommande d'ajouter la candeur, l'innocence de la colombe. La colombe, symbole initialement biblique et aujourd'hui universel, de réconciliation et de paix, est aussi un symbole de pureté par la blancheur de son plumage. Elle évoque ici l'état d'esprit dénué de violence que Jésus recommande à ceux qui l'envoient. Pas d'imprudence donc, mais pas non plus de malice, de mensonge, ni d'agressivité. Et surtout, ne pas croire qu'il s'agirait d'un match à gagner, qu'il faudrait prendre le dessus sur des contradicteurs. L'enjeu n'est pas du tout là. Témoigner n'est pas chercher à convaincre, à convertir ou à embrigader de nouveaux adeptes. Témoigner, c'est plus simplement partager une expérience existentielle fondamentale, dire ce qui me remet debout, moi. C'est tout le subtil équilibre, mais aussi toute la force de l'annonce de l'Évangile. Témoigner de ce que je vis dans la foi en Jésus-Christ, au lieu de chercher à défendre une doctrine religieuse, si brillante soit-elle. Cela m'évitera la tentation d'imposer aux autres mon point de vue. Ce qui n'est que mon expérience personnelle est par essence intransposable et donc non imposable. C'est à cette condition que mon témoignage invite simplement mes interlocuteurs à découvrir ce que cela pourrait produire pour eux-mêmes. Matthieu dit aussi que Jésus recommande à ses disciples de ne pas s'inquiéter de ce qu'ils auront à dire face à leurs juges. Au verset 20, Jésus dit ainsi : « Ce n'est pas vous qui parlerez. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. S'il m'appartient donc de me préparer, en faisant mon travail de traduction, de formulation pour moi-même, Ensuite, je peux et je dois faire confiance à l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, cette force de Dieu qui agit en moi. Ce lâcher-prise total est difficile à envisager, car qui renoncerait à savoir ce qu'il dira pour sa défense lorsque sa vie même peut être en jeu? Et pourtant, plusieurs exemples sont donnés dans le livre des Actes, puis dans l'histoire ancienne ou contemporaine de l'Église, de ce soutien de l'Esprit de Dieu aux disciples lorsqu'ils furent confrontés à des adversaires. Mais attention, ce n'est pas parce que l'Esprit parlait en eux que leur vie n'était pas pour autant menacée, et beaucoup furent condamnés à mort malgré tout. Alors, il faut bien comprendre que lorsque Jésus dit « n'ayez peur de personne », il ne promet pas à ses disciples qu'ils seront vainqueurs intellectuellement et encore moins physiquement dans ces situations difficiles. Le nombre des martyrs en donne la preuve inverse, martyr qui est exactement le mot grec que l'on traduit par « témoin ». Mais Jésus assure qu'ils seront vainqueurs spirituellement, parce que quoi qu'il leur arrive, ce qu'ils annoncent arrivera bien. En fait, c'est même déjà arrivé. Dieu est déjà vainqueur du mal, et même du mal ultime, au travers de la résurrection de Jésus. Et c'est pour cette raison que je peux en effet dire, avec les premiers disciples, que le règne de Dieu s'est approché avec cet événement décisif qu'a été la vie de Jésus. Mais il appartient à chacun de continuer à faire se manifester chaque jour ce règne, en montrant au monde, en témoignant auprès du monde, que rien ne peut être plus fort que l'amour de Dieu pour les hommes. Cet amour-là les rend libres de toute crainte, et donc les libère de leur dépendance à l'égard de tout ce qui est habituellement puissant sur cette terre, violence, méchanceté, richesse, position sociale ou pouvoir politique. C'est pourquoi la mission que Jésus me confie est pour tout de suite, dans ce que je dis, dans ce que je fais ou ne fais pas, dans ma manière d'être au monde avec les hommes et les femmes que je rencontre, quelles que soient les difficultés, grandes ou petites, auxquelles je serai nécessairement confrontée. Il s'agit uniquement de partager mon expérience de la véritable liberté que me donne la confiance en un Dieu qui s'est approché de nous au point de vivre notre vie d'homme. Ce témoignage ne sera pas toujours reçu favorablement, mais rien ne pourra m'empêcher de le dire quand même.
Merci beaucoup Corinne Bito d'avoir partagé avec nous vos réflexions sur ce texte biblique et merci pour ce message qui plaide en faveur d'un témoignage chrétien positif et ouvert au dialogue. Je vous invite maintenant à prendre un temps de prière.
Mon Dieu, ton amour pour les hommes est si grand que depuis la nuit des temps tu as préparé pour eux ce monde. Depuis la nuit des temps tu as marché avec eux. Tu les as aimés malgré leur rébellion, leur découragement, leur trahison. Tu leur promets que tu seras toujours avec chacun d'entre eux, qu'ils te connaissent ou qu'ils se détournent de toi, et même s'ils te haïssent. Pardonne-nous de ne pas savoir reconnaître la trace de ta présence dans nos vies. Pardonne-nous de garder trop souvent pour nous la nouvelle de ton incroyable fidélité. Pardonne nos silences, là où ta parole aurait pu relever, apaisé, consolé. Mais nous savons que tu regardes nos cœurs au-delà de nos limites, de nos manquements, et que tu nous dis chaque jour que nous pouvons essayer à nouveau, que nous pouvons faire mieux que cela. Nous croyons que tu seras avec nous pour nous soutenir, nous encourager, et que nous ne te demanderons pas en vain de nous donner ton Esprit Saint. Alors oui, nous pouvons avoir la force d'être vraiment tes disciples, le cœur prudent mais simple, non pas naïf mais sans crainte, fermes dans nos convictions, mais respectueux de nos interlocuteurs. Nous savons que tu es avec nous, Seigneur. Bénis nos routes et fortifie notre témoignage de ton amour.
Merci Corinne Biteau d'avoir été en notre compagnie ce matin. Je rappelle que vous êtes prédicatrice dans l'Église protestante Unie de France et engagée dans un projet missionnaire à Créteil. Et d'ailleurs, si certains sont intéressés, vous pouvez peut-être donner l'adresse et l'heure du culte le dimanche ou d'autres activités.
Alors vous êtes bien entendu tous les bienvenus au 113 avenue des Générales Leclerc à Créteil, tous les dimanches à 10h30 ou le jeudi soir à 20h pour une réunion de partage biblique et de prière.
Merci beaucoup pour ces précisions. Ainsi s'achève le service protestant proposé par la Fédération protestante de France et présenté par Benjamin Bories. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation et à Bernard Laniel pour la prise de son. Si vous avez des questions ou remarques, écrivez-nous au service protestant, 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur les sites franceculture.fr et protestant.org. Vous pouvez également nous retrouver sur votre application préférée de podcast en tapant « Service protestant ». Restez à l'écoute de France Culture pour les informations à 9h, suivi à 9h10 de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wacknin. Bonne journée à vous sur France Culture.